Je suis en ligne avec Sophie. Bonsoir Sophie.
Bonsoir. Bonsoir Yann. Je vous appelais donc pour un autre sujet, mais je voulais d'abord vous parler de votre auditeur précédent, parce que ça m'a beaucoup touchée.
Oui, oui, moi aussi. Fils... Ça m'a même énervé, moi.
Oui, ben, moi j'ai un fils de 8 ans qui vient d'être diagnostiqué multidys et TDAH.
J'ai beaucoup de mal avec eux. Je vais demander aux auditeurs de bien vouloir, quand il y a un handicap, une maladie, d'éviter les acronymes, parce que je ne suis pas très calé en acronymes, et les auditeurs pas forcément non plus. Donc si vous pouviez avoir la gentillesse de donner en entier les noms des maladies, des handicaps, des associations, des organismes, ça serait très sympathique.
Alors, quand on dit multidys, c'est qu'ils ont plusieurs dys. Donc, mon fils, il est dysgraphique, dyspraxique et peut-être dyscalculique. Là, pour l'instant, il n'a que 8 ans, donc on est en cours de diagnostic. Quand on dit TDAH, c'est trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
D'accord.
Ouais, donc, généralement, c'est des troubles qui peuvent être associés les uns aux autres.
Oui, qui peuvent être cumulatifs.
Voilà,
c'est ça. On peut faire un bouquet, d'une certaine manière, de toutes ces défaillances. Tout est possible, quoi, en fait.
Oui, c'est ça. Et comme il est né avec un handicap visuel congénital, ça a été très difficile de faire admettre aux médecins que tous ces troubles associés n'étaient pas liés à son handicap, mais à d'autres troubles. Et ça a été une bagarre de 3 ans avant qu'enfin on puisse accepter de faire les tests et que les résultats tombent. Donc c'est vrai que quand il dit qu'il a mis des années avant d'être diagnostiqué, il n'y a rien d'étonnant. Vraiment, moi je sais que j'étais la seule à lutter. Hein. Les médecins me disaient le contraire, le corps scolaire me disait le contraire.
Moi j'ai beaucoup d'estime pour le corps scolaire et beaucoup d'admiration pour les médecins. Je ne le cache pas, ce sont deux professions que j'admire, que j'aime. Simplement, dans ces professions, comme dans toutes les professions, il y a parfois des gens qui pensent détenir la vérité et savoir. Or, les grands médecins que j'ai rencontrés et les grands professeurs, les grands instituteurs, sont toujours des gens qui laissaient entrevoir qu'ils n'étaient pas des absolus sachants. Qu'il y avait un coin de leur cerveau qui n'était pas dupe, qui était peut-être défaillant. Et surtout, ils savaient qu'un autre avis, qu'une autre possibilité, une autre hypothèse pouvait éventuellement être envisagée. Être grand dans son travail... c'est être humble dans sa profession. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse.
Oui, mais voilà. Donc, c'était moi aussi, je vais fermer la parenthèse. Ce n'était pas l'objet de mon appel, mais c'est très, très difficile. Ce sont des diagnostics que, en tout cas en France, peut-être pas au Canada de ce que j'ai lu, mais en tout cas en France, c'est ce que les médecins rechignent aussi à poser. Donc, et ça peut traîner des années et des années. Je vous appelais parce que en 2008 été victime de ce qu'on peut qualifier de viol par un membre de ma famille, par mon neveu.
De ce qu'on peut qualifier de viol, c'est-à-dire c'est un viol ou c'est pas un viol?
Bah, une pénétration digitale, donc
c'est un viol.
Factuellement, c'est un viol. Ouais. J'ai toujours du mal à le dire.
Oui, mais c'en est un. Il faut que les femmes qui nous écoutent sachent qu'une pénétration, quelle qu'elle soit, c'est un viol. Si elle est non consentie, bien sûr. Donc, il n'y a pas à hésiter. Lorsque quelqu'un vous a s'est introduit en vous, quelle que soit la modalité, c'est un viol. Que les choses soient très claires. Et donc, c'est un crime et c'est puni par la loi, bien sûr.
Et oui, et je n'ai jamais déposé plainte parce que j'ai subi de la pression de ma famille et j'en subis encore pour ne pas poser plainte en disant qu'il avait, il était suffisamment malheureux comme ça. Voilà. Concrètement.
C'est un neveu?
Oui, c'est ça. En fait, on est une fratrie de 3 sœurs et moi, j'arrive très, très après mes 2 autres sœurs. Je suis née 15 ans après. Et donc, de fait, il y a moins de différence d'âge entre les enfants de la première et moi. Et moi, j'avais 10 ans, enfin j'ai 11 ans de plus que lui, et un soir il m'a demandé de passer chez lui, il m'a appelé 3 fois, il vivait à côté de chez mes parents, j'étais de passage, moi je vivais pas sur la région. Et dès que je suis arrivée, il avait 21, moi j'en avais 32, je dis ça, et il m'a agressé direct, il s'est jeté sur moi, j'ai pas compris. En fait, je peux voyer le temps à passer et je n'arrive pas toujours pas à comprendre ce qui lui a pris. Quand je lui ai dit je suis ta tante, tu n'as pas le droit de faire ça, il m'a dit il y en a bien qui baisent entre cousins, je peux bien baiser ma tante.
Petite question, chère Sophie, est-ce que vous vous imaginez une fraction de seconde qu'il avait un désir refoulé pour vous? Aucun.
Moi, je suis sa marraine, donc oui. Je veux dire.
Vous n'aviez rien noté auparavant, c'est ça que je veux savoir.
Non, d'accord. Non, et puis je venais pas souvent.
D'accord.
J'étais en couple à l'époque. Non, et puis pour moi, c'est quelqu'un que j'ai bercé. Ouais, donc j'ai changé les couches. Il y a quelque chose. Bah oui. Enfin, c'est ça la réalité.
On peut épouser quelqu'un qui en a changé les couches si la personne est d'accord.
Oui, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Moi, j'ai rien vu. Non, je pense
Johnny Hallyday avait rencontré Adeline quand elle était bébé et ça s'était très bien passé. Hein. Tout est possible, mais dans votre cas, c'est pas du tout ça.
Non, et c'est vrai que moi, je n'ai pas compris du tout. Qu'il pouvait s'autoriser à faire ça, même ne serait-ce que l'imaginer et en plus anticiper, parce que ça a été un vrai traquenard. Moi, j'étais là, il a appelé une première fois, j'ai dit je ne me déplace pas, il a appelé 3 fois de suite. Donc, il avait vraiment l'intention. Et au bout de 3 fois, j'ai dit bon, ok, je passe, mais je reste pas longtemps.
Il était alcoolisé
Alors, tout le monde a essayé de me faire croire qu'il était alcoolisé. Pour moi, il était. Enfin, peut-être qu'il avait bu un verre avant que j'arrive, mais il n'était pas alcoolisé. Il était
ce n'est pas du tout une excuse. C'était juste pour savoir dans quel état il était, pour savoir si c'était vraiment quelque chose de froidement exécuté. Un viol est un viol, hein, alcool ou pas, que les choses soient claires.
Non,
c'était froid ou s'il était dans un état...
C'était froid.
D'accord.
Non, c'était froid.
D'accord.
C'était calculé.
Calculé.
Comme si, en fait, il y avait une manière aussi de vouloir me détruire derrière ça. De prendre le pouvoir, l'ascendant.
D'accord.
Je pense que, comme dans certains pays en période de guerre, hein, le viol, c'est une arme de guerre.
C'est mais c'est quand même un viol sur la sœur de sa mère.
Ah oui.
Donc,
oui,
vous voyez, c'est quand même pas neutre. Gravissime.
Et donc après, il m'a porté carrément à l'étage. Et quand il m'a jeté sur le lit, j'ai réussi à me dégager et à partir. Le lendemain, quand je suis revenue le voir... pour essayer de comprendre, parce que il m'a menacé en disant t'en parles à personne. Donc moi je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à des amis qui ont appelé mon compagnon, qui ont appelé le médecin. Après j'en ai parlé à ma sœur, pas sa mère à lui, mais mon autre sœur, qui a elle aussi minimisé, carrément un déni en disant non, c'est rien. Elle m'a écrit d'ailleurs un courrier de 3 pages, là, 2 ans après, me disant que pas un viol, mais je l'ai encore sous les yeux, mais un désir incestueux. Et moi, ça a été encore plus violent de recevoir ce courrier parce que je me suis dit...
Que ce soit incestueux, oui. Que ce soit un délire, non. C'est un crime. C'est un crime extrêmement grave. Que ce soit, je le répète, avec le doigt, avec un Playmobil, avec son sexe, avec quoi que ce soit, une pénétration qui n'est pas souhaitée par une femme s'appelle un viol et c'est un crime.
Alors, ma sœur m'a demandé d'en parler à ma mère et j'ai trouvé que c'était une très mauvaise idée. Et un an plus tard, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit, alors c'est peut-être pour ça que je vous appelle, parce que je sais que vous êtes très affûtée sur les relations familiales de cet homme. Et elle m'a dit, toi je t'aime bien, mais lui je l'aime, si tu portes plainte, je me fous en l'air.
Elle ne l'aurait pas fait ? Ça s'appelle de la perversion. Ça c'est des menaces de pervers.
Je ne sais pas si elle l'aurait fait, mais en tout cas moi c'est vrai que j'étais sous le choc.
Qu'elle le fasse, d'ailleurs, elle aurait pu... qu'est-ce que ça peut faire qu'elle le fasse ? On s'en fiche, qu'elle le fasse, qu'elle se suicide, très bien. Vous vous êtes fait violer On se reprend tout de suite. Il y a l'horrible pub de 23h59-30 que j'aime bien quand même. A tout de suite, ne quittez pas.
La libre antenne d'Europe 1. Yann Moix accompagne vos nuits.
Vous êtes toujours sur Europe 1 pour la dernière de ces 6 heures passées ensemble tout le long du week-end. Je suis toujours en compagnie de mon équipe, Benoît aux manettes, Mathilde et Nicolas que vous connaissez bien, que vous pouvez contacter au 39-21 50 centimes par minute. Les SMS, je les reçois au 7-39-21, commençant par le mot nuit avec majuscule si vous voulez qu'ils arrivent, et libreantenne@europe1.fr pour les mails. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais reprendre Sophie dans quelques instants, mais il y a cet horrible personnage avec ses jeux débilitants qui vient hanter le studio en la personne de Nicolas.
N'en jetez plus, Yann. Alors, ce soir, Yann, nous avons une réclamation. Quant au résultat du jeu de l'Anopoly d'hier, qui concernait donc la chanson de Michel Fugain, Une belle histoire, et c'est Françoise qui nous a écrit, et elle nous dit: je voulais contester la réponse de l'auditrice quant à l'intrigue de la chanson Une belle histoire de Michel Fugain. Cette dernière évoque le fait qu'il n'y ait pas d'aire d'autoroute sur l'A6. Certes, c'est un fait, mais rien ne prouve dans la chanson que les deux antagonistes de la chanson circulent en automobile sur l'autoroute. Je cite les paroles de la chanson: ils se sont croisés au bord du chemin, peut-être s'agit-il de routards en sac à dos, vu le contexte de l'époque, où les personnes s'opposaient farouchement à l'ordre établi et où les hippies demeuraient à foison. De plus, ils se sont évadés dans les champs pour y vivre leur romance. Les deux antagonistes se rendent l'un au sud et l'autre au nord. Se sont tout simplement croisés le long des chemins longeant l'autoroute. Alors, j'ai pris cette réclamation parce que c'est pertinent. Comme nous, nous partons du postulat qu'ils sont en automobile, effectivement, hier, nous avions raison. Mais s'ils étaient à pied avec un sac à dos, Françoise a raison.
Mais moi, je ne suis pas d'accord parce que les paroles disent bien sur l'autoroute des vacances. Et sur une autoroute, je suis désolé, non, on ne s'arrête pas comme ça. Même si ce sont des hippies qu'on dépose chacun d'un côté de l'autoroute, alors faut qu'ils, s'ils sont à l'arche, ils peuvent évidemment se croiser en changeant de côté chacun, donc évidemment. Mais c'est quand même sur l'autoroute. Donc je trouve ça quand même un peu bancal comme explication.
Donc Arlette reste la gagnante,
oui,
du jeu de la nuit.
Sauf si cet homme, comment s'appelle-t-il ?
C'était Françoise.
Françoise,
voilà. Oui, Françoise.
Ça, cette chère Françoise m'avait dit, d'accord, ces deux autostoppeurs qui sont descendus chacun de la voiture, mais a priori, on savait très bien qu'ils rentraient chacun. Il ne faut pas me prendre non plus pour un imbécile, et Nicolas non plus. On voit très bien que c'était eux qui étaient dans la voiture. C'est scandaleux, cette façon de déformer les paroles d'un poète comme Pierre Delanoë. Mais enfin, j'aime beaucoup Françoise, c'est pas ça, mais... Là, c'est bancal. C'est bien vu, c'est bien essayé.
C'est bien essayé.
Je vous embrasse, Françoise.
Concernant le jeu du résumé, alors nous avons reçu une proposition de Marisol qui a résumé la chanson de Sim, « J'aime pas les rhododendrons ». Elle écrit « J'aime pas les rhododendrons, l'humour, l'amour, surtout. Quand ils n'aiment pas, ils ne gèrent pas, car il suffirait de s'en débarrasser au lieu d'éviter le jardin. Ce qui induit qu'il ne peut pas faire du mal à un ennemi. Pourtant, son corps réagit par des allergies, mais sa raison et son cerveau ne gèrent pas. Donc, j'aime tout le monde, toutes les fleurs et plantes, mais pour les rhododendrons, bouc émissaire ou vraie aversion. Chacun son avis. »
On ne peut pas avoir les 27 premières secondes. Je sais qu'il n'aime pas du tout la chanson.
On peut avoir les 27 premières secondes. Voilà.
J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma sœur et mon petit frère. J'aime la montagne, le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, il y a toujours une petite place. Mais pas pour les rhododendrons. J'aime pas les rhododendrons.
Et enfin, pour terminer, nous jouons ce soir avec le groupe Billy the Kick et sa chanson OCB. Vous devez découvrir quelle anomalie se cache dans cette chanson. J'attends vos réponses.
Je crois que j'ai trouvé, moi. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est possible.
Vous me direz en antenne. Oui. Et puis enfin, je vous rappelle quand même qu'on attend toujours vos réinterprétations de la chanson de Pingolet-Noy. On n'a pas reçu beaucoup de
propositions. Il y a Francis et Agathe qui planche dessus. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas reçu beaucoup de propositions. Mais peut-être que les gens travaillent. Sachez que le morceau passera à l'antenne intégralement. Avec citation de votre groupe, de vos noms, une énorme publicité. Merci Nicolas, enfin merci avec des guillemets.
Oui.
Merci de nous retrouver tous. Je suis en ligne avec Sophie. Et Sophie était en train de nous expliquer les conditions d'un terrible événement qui s'est passé dans sa famille. Je vais brièvement résumer les faits. La différence d'âge entre elle et son neveu n'étant que de 11 ans, son neveu lui a demandé un soir de passer chez elle et contre toute attente, ce même neveu a violé Sophie. Sophie était en train de nous expliquer que dans sa famille, une sorte d'omerta avait été souhaitée et que certains n'ont pas hésité à menacer d'attenter à leur jour si notre amie Sophie délivrer la vérité.
Oui, c'est ça. Ma mère, en l'occurrence.
Votre mère.
Oui, ma mère. Par exemple, quelques mois après qu'elle l'ait appris, elle le savait. Hein, donc.
Mais la mère, votre sœur, la mère du cousin, qu'est-ce qu'elle a dit, elle ?
On lui a caché pendant 10 ans.
Ah, vous lui avez caché ?
Oui, on lui a caché. Tout le monde lui a caché. Hein.
Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une énorme erreur.
Moi, j'ai subi plus que choisi.
Ça, c'est une erreur.
Et c'est moi qui lui ai dit, les yeux dans les yeux.
Mais pourquoi vous
ne
l'avez pas fait ? C'est facile à dire, hein, ce que je vous dis là.
Vous avez raison.
Mais pourquoi ?
Non, mais
c'est à mon avis aussi une question que se posent les auditeurs et les auditrices. Et les auditeurs. Pourquoi, dans ces cas-là, on ne va pas voir directement sa propre sœur en disant voilà ce que ton fils m'a fait. Il m'a violé. Pourquoi ça n'a pas été faisable ?
Parce que je pense que ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut... Quand elle l'a su, j'en ai pris plein la figure. Elle a dit que c'était moi.
Que vous étiez une allumeuse, que vous l'aviez bien cherchée.
Voilà. Et que ce n'était pas lui. Et elle l'a appris en 2020.
Et le violeur vous a présenté des excuses un jour ou pas ?
Alors, oui.
Je l'appelle le violeur, moi.
Oui, il a eu peur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que entre deux, je suis passée une fois, ma mère était au courant. Et j'ai vu que j'avais prévenu que je passais. Je venais avec quelqu'un parce qu'on y déposait des meubles. Et elle avait mis une assiette de plus à table et je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, elle me dit, je ne dirais pas son nom, il passe. Et je lui dis, mais tu ne vas pas m'imposer sa présence. Et elle me dit, il est chez lui, il vient quand il veut. Et moi, j'étais tétanisée quand il s'est présenté, parce que lui, il s'est présenté très, très à l'aise.
Et après, on va me dire que les familles ne sont pas des asiles de fous.
Et c'est mon pote qui était là, et qui, quand mon neveu est venu le saluer, qui lui a dit... Monsieur, si je me lève, je vous casse la gueule. Et donc, du coup, il a fait demi-tour. Il est parti avec ma mère qui courait derrière lui en pleurant, en lui disant « Reviens, reviens ».
Pourquoi, Sophie, et là encore c'est très facile à dire et très difficile à faire, pourquoi vous n'avez pas coupé tout contact avec la totalité des membres de la famille qui défendaient le violeur?
Ah oui, mais c'est terrible, parce que par exemple, moi, par la suite, j'ai eu deux grossesses pendant ces périodes-là, et à la maternité, et des mois après, j'ai refusé de voir ma mère. Je ne supportais pas, je ne pouvais pas la voir, je ne pouvais pas l'entendre. Je crois même qu'elle a appris très tardivement que j'étais enceinte.
Et le violeur, il n'avait pas un papa, il n'avait pas un père?
Ma sœur était séparée du père depuis longtemps. Et oui, c'est très difficile pour moi. Et on m'a imposé sa photo dans le salon en grand format pendant des années.
Enfin, on vous a imposé, mais je vais être très, 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 très incisif. C'est pour juste vous pousser dans vos retranchements, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'irrespectueux, je vous rassure. Pourquoi vous continuiez à aller dans un endroit où la photo du violeur était affichée? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre.
Non, mais c'est terrible, parce que comment vous dire,
c'est un syndrome de Stockholm.
À chaque fois, quand j'ai coupé les plombs, mais je pense que quand j'étais, à chaque fois, quand j'ai coupé les plombs, j'avais ma deuxième sœur, donc pas la mère de ce garçon, mais l'autre, qui m'appelait et me disait, mais là, j'ai même une lettre de 3 pages d'aide sous les yeux qui me disait, tu peux pas imposer ça aux parents, tu dois pas laisser les parents tout seuls à Noël, tu dois venir à Noël, tu dois pas les priver de leurs petits-enfants, tu dois être auprès d'eux.
Tu dois, sauf que voilà. Cet homme, ce petit con, vous a tué. C'est ça le problème.
Ah,
c'est un assassin.
Ah, oui, mais
c'est un criminel.
Quand moi je disais, mais enlevez-moi cette photo, on me disait, non, pourquoi? Et un jour de colère, j'ai mis un coup de poing dans la vitre, hein, donc dans le cadre. Et ben ma mère a remis la photo sur le mur, même sans vitre. Et donc, une autre fois, quand je suis revenue, la photo est encore là. Alors j'ai dit, mais tu vas toujours pas l'enlever. Non, arrête avec ça, je vais pas l'enlever. J'ai dit, très bien, je l'ai pris, j'ai écrit violeur dessus et je l'ai raccroché au mur. Je dis, maintenant tu peux le laisser. Elle me dit, non, je vais pas le laisser, ça va pas te faire ça. Je dis, pourtant c'est la vérité. Et en fait, en 2010 ou 2011, ma deuxième sœur a convoqué mon neveu devant moi et il a pleuré, hein. Il a dit « je m'excuse, là. » Il n'a pas dit ce qu'il avait fait, mais il a bien reconnu les faits.
Il a reconnu les faits.
Il a dit « oui, j'aurais pas dû faire ça ». On n'était que trois, hein. Il n'y avait pas d'autres témoins que ma sœur. Et ma sœur, après, m'a dit « c'est bon, le dossier est clos, quoi ».
Le dossier n'est pas clos. Vous savez pourquoi le dossier ne sera jamais clos? Parce qu'il n'a pas été puni. Le dossier, d'abord, le dossier ne sera jamais... Attendez, je vais dire les choses autrement. Mmh. Le dossier, lui, peut être clos. Mais la blessure ne sera jamais close. Le dossier peut être clos et atténuer la douleur à une seule condition. C'est que vous portiez plainte, ce que je vais vous demander instamment de faire. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, les douleurs et la blessure vont faire partie de votre vie jusqu'à votre dernier souffle. Et c'est terrible, et c'est bien pour ça que les violeurs sont des criminels. C'est que les violeurs ouvrent une plaie qui ne se referme pratiquement jamais. Et même les femmes qui arrivent à retrouver une vie normale, à retrouver l'amour, à avoir des relations parfaitement harmoniques avec leurs enfants, ont toujours en elles-mêmes un relent de cauchemar qui vient souvent les hanter.
Oui, et moi j'arrive là à une période où, du coup, ma sœur, depuis qu'elle le sait, donc la mère, elle s'en va voir mes parents en disant mon fils, il a fait construire sa maison, mon fils, il est heureux, il a un enfant. Et moi, ça m'est
insupportable. Il va rester dans sa maison avec un joli petit bracelet électronique, il va aller en prison, vous allez aller porter plainte. C'est marrant, hein? Je vois bien que vous êtes très fuyante quand je parle d'aller porter plainte. Ça vous dérange encore.
Bien sûr, je pense que c'est pour ça que je vous appelle.
Pas d'humour sur les agressions sexuelles. Et vous faites bien de m'appeler. Parce que Non, moi, je vais vous aider à porter plainte. On va porter plainte ensemble. Non, je plaisante pas du tout. Il faut absolument le faire. Parce que là, je vous parle de ça depuis tout à l'heure. Je ne suis pas en train, évidemment, de vous donner un ordre. Je suis en train de vous dire que
non,
c'est... Vous m'appelez pour ça, donc je me permets de vous parler ainsi, ouais. Avec véhémence, précisément parce que c'est ce que vous attendez de moi. Et je vais m'assurer que vous allez porter plainte. Maxime, est-ce que vous êtes en ligne ? Allô, Maxime ?
Bon. Allô ?
Oui, Maxime, oui, j'ai une faveur à vous demander. On ne se connaît pas, mais je sais que vous êtes un auditeur extrêmement fidèle. Je suis en ligne, ouais, avec Sophie. Je crois que vous avez
entendu
son témoignage.
Ah oui, j'ai entendu.
Attendez, Maxime, je sais que vous êtes un auditeur extrêmement attentif et fiable. Est-ce que vous pouvez, bien sûr Sophie en est d'accord, si on vous donne les coordonnées de Sophie, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît Maxime, vérifier, suivre, mais on va demander évidemment à Sophie de nous rappeler la semaine prochaine, vous assurer que Sophie ira porter plainte pour viol?
Bien sûr, on peut en discuter et je pourrais vous expliquer, Sophie, le calvaire qu'ont connu deux amies à moi, surtout une, qui a connu la même omerta familiale et qui n'a pu se reconstruire de façon apaisée. Bien sûr, le souvenir, il reste toujours une cicatrice, mais que le jour où effectivement elle a été, elle, reconnue comme victime et l'auteur comme bourreau. C'est symbolique, mais la puissance est dans le symbole. Parce que là, en fait, vous avez eu une double, voire une triple peine. Vous avez eu l'agression, le viol, le crime. Vous avez eu l'omerta familiale, et c'était encore à vous à ne pas gêner ce pauvre petit qui était traumatisé par ce qui s'était passé. Vous avez eu à subir, à être présente face à sa photo, face à sa sale gueule. Vous avez subi trois fois, et encore aujourd'hui, toute cette famille ne vous demande pas pardon pour tout cela. Ce que vous vivez, c'est terrible, parce qu'en fait, tant que tout ça ne sera pas dépassé, et tant pis s'il y a de la casse, tant pis si d'autres font des dépressions, le chantage au suicide, ça, de toute façon, faut l'écarter. Hein. Mais ce qui est terrible, c'est que, en fait, vous n'avez jamais été reconnu comme victime, et quand vous parlez, c'est encore vous qui faites chier. C'est inadmissible.
Oui, mais c'est ça.
C'est très bien dit. Yann, écoutez, franchement, Maxime, je rebondis sur ce que dit Sophie. Faites-le pour vous, la plainte, mais faites-le aussi pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont dans la même situation. Il y en a marre des violeurs. Les femmes ne sont pas des objets, les femmes ne sont pas des morceaux de chair, les femmes ne sont
pas
des chiens, les femmes ne sont pas à disposition
des
hommes, et les femmes ne sont pas des corps. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je vous conjure de nous écouter et d'aller porter plainte, parce que pendant que lui fait sa jolie maison comme naf naf, nif nif et nouf nouf, ce petit cochon devrait avoir un bracelet électronique, passer en justice et demander pardon pour ce qu'il vous a fait, et rendre justice pour la violence et l'abomination de cet acte qui est un acte inqualifiable. Enfin, c'est qualifié puisque c'est un crime.
Oui, un des plus ignorants.
On va laisser parler un peu Sophie, mon cher Maxime.
Non, et c'est vrai que le temps passe, et moi, en fait, ce qui me fait peur, et là, je vois bien, parce que je prends en âge, je me dis, si demain il m'arrive quelque chose, en fait, moi, j'ai réussi à imposer qu'il ne puisse plus être face à moi. Donc, c'est-à-dire que c'est maintenant...
Ça lui fait, excuse-moi, mais ça lui fait une belle jambe.
Ah oui, ça lui fait...
Quelle punition, oulala. Non, mais franchement,
et je me dis,
il mérite
si
un peu plus.
Si demain je meurs, eh ben, en fait, ma fille, ben, il n'y aura plus de barrage entre ma fille, parce que ma famille continue à lui fêter ses anniversaires, il continue à l'accueillir comme il se doit, enfin... Et je me dis, bah, en fait, ce
non,
que j'avais
attendez.
Dit à mon autre sœur qui a une fille de 14 ans, je lui ai dit, le jour où si c'est ta fille qui chope...
Mais moi, je vais vous dire une chose qui...
Non, mais
Sophie, là, il y a quelque chose qui ne va pas, je suis désolé. Il faut couper les ponts avec cette famille qui vous asphyxie. Vous allez développer une saloperie à cause de cette famille qui est une famille nocive, qui vous envoie toute la journée des miasmes, qui vous envoie des ondes radioactives, et vous allez franchement passer l'arme à gauche à force d'être malmené psychiquement depuis toutes ces années par cette famille qui veut votre mort, qui veut...
Absolument, et le fardeau, c'est...
Pardon, Maxime,
le fardeau
pardon, Maxime.
Doit changer de camp.
Exactement, mais je termine juste, Maxime, et je vous laisse la parole. Si vous voulez, pour l'instant, ce qui se passe dans votre cas, Sophie, je suis désolé de vous le dire, c'est que personne dans cette famille ne vous respecte. Vous êtes un tas de viande qui a été pénétré de force par un individu abject et vous n'êtes conçu que comme un décorum pour les moments festifs de la vie de famille et le reste du temps, vous êtes considéré par tout le monde comme un morceau de viande qui n'a aucun intérêt. Et ça, c'est inacceptable. Vous devez couper les ponts avec cette famille et vous avez des enfants. Pour le respect de vos enfants et le respect de votre personne et de toutes les femmes qui se font violer, vous devez porter plainte.
Oui, allez-y, je vous en prie.
Si je peux me permettre d'ajouter par rapport à ce que Yann vient de dire, c'est que au-delà de couper les ponts complètement ou pas, ça ce sera votre choix, même si ce serait très sain, si vous déposez plainte, bah, là vous verrez ceux qui effectivement réalisent que « ah oui, il y a une plainte, ah oui, elle est instruite, donc il y avait quand même quelque chose et qui revireront peut-être...
Ah oui, elle a été abîmée. Ah oui, il y a eu un crime de fait. Ah oui, c'était sérieux. Ah oui,
donc,
c'était pas une blague. Reconnaissance
aussi, même par certains, au sein de votre famille. Parce que pour l'instant, c'est, ils sont dans le déni. Ils refusent de considérer la chose comme un viol. Pour eux, il a fait une connerie. Bah non, il vous a pas bousculé un soir de cuite. C'est éminemment grave ce qu'il a fait. Éminemment.
Il y a Sarah en ligne avec nous qui a une expérience tout aussi traumatique et qui aimerait intervenir si ça ne vous dérange pas. Sarah, êtes-vous en ligne ?
Oui, je vous écoute, Yann.
Bonsoir, bonsoir, ma chère Sarah. Je suis
après,
en colère, vous ne pouvez pas savoir.
Après votre soirée au cimetière, bah écoutez, moi, je suis en train de bouillir et je sens des parties de mon corps qui sont en train d'exploser tout simplement quand j'entends tout ce que vous dites à cette... Comment c'est son prénom ? Excusez-moi.
Sophie.
Sophie, voilà. Enfin, j'ai vécu ça de par ma fille, en fait. J'ai divorcé et 2 ans après, j'ai envoyé mes enfants chez leur papa qui est parti sur son île. Donc, ma fille avait 8 ans à ce moment-là. Donc, c'était en 96. Et bon, je les avais par téléphone et tout. Et quand ma fille est revenue, quand je suis partie la chercher à l'aéroport, dans ses yeux, j'ai vu qu'elle avait subi quelque chose, rien qu'en la regardant. J'ai dit, bon, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas vue pendant un mois et tout. Et arrivée à la maison, je me suis rendue compte qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Elle déshabillait toutes ses poupées et elle les jetait. Elle déshabillait ses poupées et elle les jetait. Et là, j'ai demandé à son frère d'aller chez un copain. Et je l'ai prise et je l'ai emmenée dans ma chambre et je lui ai dit « Maintenant, tu vas m'expliquer ce qui se passe. » « Oh, rien, il ne s'est rien passé. » Je lui ai dit « Écoute-moi, je vois que tu n'es plus la même. Il y a quelque chose en toi qui a changé. Ton regard n'est plus le même. Donc, tu vas me dire ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de pas très bien là-bas ?» Non, ça va. Et là, je l'ai regardée et je ne l'ai prise pas dans les bras. Et je lui ai dit, écoute-moi, tu n'es plus la même que celle que tu es partie. Alors, tu vas me dire, qui que ce soit qui t'a fait du mal, tu vas me le dire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, elle m'a raconté l'abus sexuel qu'elle avait subi de par son cousin. Elle avait 8 ans,
et
il en avait 17.
D'accord.
Donc, ce que je fais, j'appelle son père qui est là-bas, qui m'insulte de tous les noms, et qui me dit « Oui, mais c'est à cause du divorce, tu veux te venger, tu veux faire des histoires et tout. » J'ai dit « Non, je vais te passer ta fille et tu vas voir. » Et là, j'entends son père, j'ai mis le haut-parleur, et j'entends son père qui est en train de la traiter de menteuse. C'est ta mère qui t'a mis cette idée en tête. C'est pas vrai. Elle lui dit, mais si, je te jure, c'est vrai et tout. Et donc, je lui dis, bah, écoute, discute avec lui et tu me rappelles dans une heure. Dans une heure, tu me rappelles pas. Moi, de toute façon, je vais au commissariat. Que ce soit vrai ou pas, je veux pas laisser passer ça. Je me fais encore insulter. Je lui dis, je je ne laisserai pas tomber. Il m'appelle après, oui, en effet, il a dit qu'il lui avait fait, oh, mais tu sais bien, ça se passe dans toutes les familles. J'ai dit, comment ? Et je dis, écoute, dans ta famille peut-être, dans la mienne, sûrement pas. Oui, mais bon, tu vas pas faire toute une histoire pour ça et tout. Ah, je lui dis, ah non, non, moi je vais te dire, là, j'habille ma fille et je vais déposer plainte au commissariat. Et il me rappelle pour me dissuader. Je lui dis, non, je vais y aller. J'attends. Après, c'est toute la famille qui m'a appelée. Tu vas pas porter plainte, tu vas pas faire des histoires. De toute façon, t'aurais pas dû les envoyer de toute façon.
C'est fou comme dans les familles, c'est toujours la victime qui est conspuée et c'est toujours le coupable qui est protégé. C'est quand même très étrange, hein, cette histoire.
Mais attendez, mais son propre père à ma fille qui dit que c'était normal que ça se passait dans toutes les familles. Mais c'est je pouvais pas entendre ça. C'est pas possible, quoi. Et donc, je porte plainte, je subis encore un autre choc. Mon père meurt 3-4 jours après. Malgré ça, bah, je pose plainte. Ma fille part au quai des orfèvres là, pour les trucs des mineurs. On repart 2-3 jours après parce qu'elle s'était rappelée qu'il lui avait encore fait d'autres choses. On y est retourné et tout. Donc, quelques temps après, on passe au tribunal. Et là, je me retrouve face à mon ex-mari qui ne s'est jamais occupé de ses enfants dès qu'il est parti de là-bas, ses enfants n'existaient pas. Toute la famille qui s'est retrouvée sur un banc, et moi, toute seule, sur un autre banc, avec mon avocat. Ils étaient au moins une vingtaine, hein, du côté de ce jeune garçon. Et moi, j'étais sur l'autre banc, avec mon avocat. Et son père qui me fait, mais tu ne l'as pas amené ? Je lui dis non. Je suis sa représentante légale. Il me dit, moi aussi. Je lui dis, non, tu ne représentes rien. Je lui dis, là, pour le moment, tu ne représentes absolument rien. Donc, on passe au tribunal. Donc, il a tout en faveur. Vous savez, elle a passé une visite médicale pour bien prouver qu'elle avait subi quand même des petites choses. Enfin, des petites choses, je m'entends. Elle avait juste l'hymen un petit peu abîmé légèrement. Je vous donne cette précision,
oui, on a
mais
compris.
Bon, quand même.
Il y avait quand même on a compris, je crois.
Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas eu d'acte sexuel proprement dit.
Oui, enfin, c'est un viol, hein. c'est un crime. Hein.
Alors, c'est exactement ce que m'a dit le policier. Et quand Yann vous avait dit ça, eh ben là, j'ai dit, ouf, au moins aussi, il le sait, quel que soit ce qu'on fasse avec un objet ou quoi que ce soit, c'est considéré comme un viol.
Toucher le corps de quelqu'un de force,
absolument.
Quelle que soit la partie du corps, si la personne
absolument.
N'est pas d'accord, c'est une agression.
Absolument. Absolument.
Et s'il y a une caresse intime,
oui.
C'est un crime.
Oui, 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 oui.
Il faut être deux. Pour prêter un corps, échanger un corps, c'est un échange. S'il n'y a pas d'échange et s'il n'y a pas de consentement, c'est une violence.
Là, justement, ma fille est passée chez un psychologue. Qui a bien marqué.
Aujourd'hui, elle est dans quel état, la petite ?
La petite, elle est grande, elle est maman de 3 garçons.
Sa vie a été détruite partiellement et elle s'est réparée ? Ou est-ce qu'elle a réussi ?
Non. Non.
C'est un magnifique témoignage d'espoir que vous
le
me donnez
pire,
ce soir.
Le pire, c'est qu'il a été condamné à 4 millions et à suivre de la psychothérapie.
Vous parlez
des
en quoi, en ancien franc
oui.
Oui. Mais là, on est en euros.
Alors faites le calcul pour moi, Yann, s'il
pas,
vous plaît.
Je
sais pas. Francs.
Ben je sais pas, j'ai pas de calculatrice et je suis plus dans l'histoire. Est-ce qu'on
d'accord.
va parce qu'elle se termine pas là en fait.
D'accord.
Donc ma fille après s'est mise à prendre du shit, à avoir un comportement un peu bon. Bref, j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir récupérer les choses.
Vous êtes toujours là, seule fille. Hein
oui, je vous écoute. Oui, pas de souci.
Continuez, chère Sarah.
Et et donc, bah, elle avait quand même eu à un moment donné, voilà quoi, drogue, alcool, comportement un peu dangereux et tout.
C'est ce
et
que
à un moment donné,
savoir.
Je l'ai prise. Ouais, ouais, non, mais je l'ai prise entre quatre yeux et je lui dis, écoute, ou on essaye de ranger, d'arranger les choses, ou illico presto, tu peux me regarder dans les yeux, je te fais tes valises et je te mets tout ça sur le palier et tu te débrouilles.
Question, est-ce que le fait qu'il y ait eu une procédure et un jugement, ça lui a fait du bien ?
Oui.
Bon, c'est ce que je voulais que Sophie entende.
Parce que je lui ai apporté le jugement à la maison et je lui ai dit, écoute, quand tu auras tes 18 ans, moi pour le moment, ces 4 millions, je ne les réclame pas. Quand tu auras tes 18 ans, on en reparlera.
Je ne parlais, pas, là, je parlais pas de la somme, hein, là. Je parlais vraiment
non,
de l'impact psychologique.
Non. Non, non, mais quand
donc
même.
Ça va te perdre, ça va te perdre.
Quand même, c'est pour dire que même par la suite, elle m'a dit, quand elle a eu donc ses 18 ans, qu'on en a rediscuté. Et elle est partie voir son père aux Antilles pour en discuter avec lui, avec la feuille, avec le truc du tribunal et tout. Et elle lui a dit, mais papa, ça, tu m'as jamais dit, tu m'as jamais cru. Tu m'en as jamais reparlé. Tu as toujours dit que c'était de ma faute. Et regarde, même la psy, elle dit que je ne suis pas une fille aguicheuse, que je ne suis pas une fille... parce qu'en plus, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, mais ta fille, elle l'a peut-être aguichée.
Une enfant de 8 ans. Mais même, je vais vous dire, mais c'est même
mais
pas le sujet. Mais ce n'est même pas le sujet, Sarah. Admettons, ce qui est déjà aberrant, qu'une fille de 8 ans soit aguicheuse. Le mot de aguicheuse, d'abord, ça ne veut rien dire pour une enfant de 8 ans d'être aguicheuse.
Mais on est d'accord.
Ça n'a aucun sens.
Mais
c'est
je
abject.
Suis d'accord. Je suis d'accord.
Et même si surtout... un enfant demande, par exemple, de l'affection, etc., en aucun cas une petite demande de l'affection sexuelle. Tout ça est aberrant et
absurde. Non, mais là, il l'a vraiment mis dans un jeu pour pouvoir la toucher, pour pouvoir...
Oui, bah, comme tous les pervers.
Voilà, quoi, il avait bien préparé son terrain et de voir que son demi-frère à ma fille n'était pas là, n'était pas dans le coin de la maison où ils étaient.
C'était prémédité, oui.
Mais complètement.
Bien sûr.
Et donc, je vous dis, elle part à 18 ans pour avoir
des tarés
le fin
sur la terre.
De l'histoire. Donc
dire
les
que parfois, quand on prend les transports en commun ou le métro, on se dit que statistiquement, il y a dans la foule qu'on voit, il y a des pères qui touchent leurs filles, des types qui violent leurs cousines.
C'est évident,
on se promène dans la rue, il y en a plein. On slalome entre les gens qui font ça, en fait, toute la journée.
Mais oui. Et donc, elle a pris l'avion. Donc, écoutez, je lui ai payé son avion. C'était son cadeau pour mettre un terme à tout ça. Et quand elle a dit, oh oui, mais tu... son père lui a dit, oh mais dis donc, tu vas pas remettre, oh c'est du passé, oublie,
bien
tourne
sûr.
La page. Et
mais
tout.
C'est pas du passé tant qu'on n'a pas porté plainte et qu'on n'a pas réglé
non,
le problème, c'est de l'avenir.
Ouais,
c'est de l'avenir tout le temps.
Ouais, non,
ça
mais
nous poursuit. Suis... Hein.
Et du présent, mais
ça
bien sûr.
Mais je suis d'accord. Et son père lui dit, bah écoute, de toute façon, si tu t'es laissé faire, c'est que tu y as pris du plaisir.
C'est la phrase la pire que j'ai entendue depuis que je fais la Libre Antenne.
Eh ben,
c'est la phrase la plus vomitive,
Yana,
peut-être même, que j'ai entendue cette année.
Yann, bah oui, bah c'est la phrase qui a guéri ma fille. Hein.
Ah, je vois, ça lui a fait un électrochoc.
Ah, mais complètement. De ce jour, elle ne veut plus entendre parler de lui. Elle a trois garçons. Il ne les connaît même pas, ni en photo, peut-être leur prénom.
Tant mieux, il serait capable de les attoucher. Non mais je plaisante pas. Non mais c'est pas drôle. Là, c'est incroyable que ce soit vous qui riez parce que moi je dis ça.
Non.
Mais
mon mari il est pas. C'est pas mon mari. C'est le cousin
non,
de
mais attendez,
ma.
Non mais ça j'ai bien compris. Mais
ah,
un type.
D'accord.
Non mais un type
Pardon.
Qui part du principe qu'elle a peut-être eu du plaisir. Je vois pas s'il est capable de ce genre de raisonnement. Il doit être capable peut-être éventuellement de se projeter dans certaines manipulations. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire.
Bah, écoutez, en tout cas, je peux vous dire que j'ai été mariée avec lui pendant 8 ans. Non, pendant 4 ans.
Oui.
On a vécu ensemble pendant 8 ans et on avait une sexualité épanouie et sans...
Bah,
voilà,
mieux,
avec
mieux,
beaucoup de
mieux.
Tendresse.
Tant
bah, je ne serais pas restée avec lui, sinon
d'accord,
je peux vous
mieux.
Le dire. Hein. Et vraiment, mais même moi, ça m'a sidérée qu'il ait dit ça. Franchement, même moi,
c'est une
voyez
phrase
comme quoi
abjectissime. La phrase elle-même, elle est criminelle.
Ah ben, c'est la phrase qui a guéri ma fille,
je comprends,
malheureusement.
Je comprends. Non, mais heureusement.
Voilà. Et après, elle a pris le cours de sa vie. Elle a repris des études normaux. Elle a voulu s'occuper de personnes âgées. Elle a rencontré quelqu'un. Elle a eu un garçon. Un an après, elle en a eu un deuxième. Et là, elle en a un troisième.
J'adore ce témoignage parce qu'il est plein d'espoir. Ça veut dire que les femmes qui ont vécu ce genre de cauchemar peuvent toujours prendre leur revanche. Mais ça n'enlève rien, je pense, à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que je crois vraiment qu'il y a quand même des traces, on ne les connaît pas, nous, parce qu'on n'est pas dans le corps de cette femme. Mais elle a dû souffrir quand même le martyre avant de pouvoir évanouir les chocs qu'elle a subis.
Oh, mais de toute façon, oui, non, mais je... Vous savez, avec ma fille, on a quand même... On n'est pas, comment dire... Les gens, ils disent qu'ils sont fusionnels avec leur fille. Et moi, j'aime pas cette expression. Ma fille, elle a sa vie, elle a sa liberté. Mais il y a un lien entre nous. On se regarde dans les yeux et on se comprend. Mmh. Et c'est pas pour autant qu'on se bouffe l'une l'autre ou que je m'interfère dans sa
c'est
vie
très
privée
c'est très
ou quoi que ce soit.
Écoutez,
voilà.
Moi, je suis très content.
On a vraiment un lien, mais voilà. Moi, je suis un peu comme vous, Yann. Hein. Je suis aussi une petite guerrière à ma façon. Et d'où je viens, je peux vous dire que moi aussi, j'ai dû sortir la tête de l'eau.
J'adore votre témoignage et c'est la raison pour laquelle je vais insister très, 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 très lourdement auprès oui. de notre amie Sophie. Et c'est aussi oui. pour ça que j'ai demandé à Maxime de m'épauler sur ce coup-là, parce que c'est un auditeur auquel j'ai énormément confiance.
Oui, je connais, oui, je vous suis. Hein,
oui, mais Maxime est...
La libre antenne, je suis fidèle depuis...
On va lui
depuis,
faire une pige bientôt, parce qu'il est quasiment... Il fait partie de l'équipe, Maxime, quasiment.
Ouais.
J'ai demandé à la direction d'Europe 1
s'il
peut faire quelque chose.
Mais je ne sais pas où elle habite loin, cette dame.
Déjà,
Sophie,
pour le coup de la voiture.
Sophie habite loin.
Mais... oui, déjà, oui, non, mais... qu'est-ce que je veux dire ? Non, la priorité, c'est la voiture, et puis on verra votre pige après. Non, ce que j'aimerais,
oui.
De la part de Maxime, ce que j'attends, mon cher Maxime, c'est que vous
oui,
preniez contact avec Sophie. Il ne s'agit pas de la forcer, de la brusquer, à porter plainte, bien
sure
évidemment.
Pas, non, c'est de
il
dialoguer.
S'agit de dialoguer et de faire en sorte que, au bout de certaines conversations, elle puisse d'elle-même comprendre que c'est très, très, très important qu'elle le fasse. Et je suis là, ma chère Sophie, vous pouvez nous rappeler le week-end prochain. Oui. On ne vous demande pas de le faire demain matin. Moi, je vous demande de le faire demain matin. Mais c'est parce que c'est dans mon tempérament. Vous ne le ferez évidemment pas. Mais je vous supplie de le faire.
Mais je ne sais pas, enfin,
oui,
excusez-moi,
Sarah.
Je suis désolée d'interrompre la discussion.
Mais non, je vous en prie.
Parce que je vous dis, même en ayant eu... une condamnation, en étant passée au tribunal, en ayant été reconnue, et elle a été reconnue en tant que victime, ça n'efface rien. Elle vit
mais Sophie
avec
le
quelque
sait.
Chose.
Mais Sophie le sait, ça. Mmh. Simplement, la grande différence, c'est que c'est très bien de dire ça une fois que le procès a eu lieu, mais tant que la phase légale n'aura pas été réglée, Sophie ne pourra pas recouvrer sa dignité. C'est ça, parce que sa famille ne la respectera pas et que, s'il vous plaît, et qu'il y a en ce moment un criminel qui est en train tranquillement de repeindre ses volets et de refaire sa plomberie comme si il n'y arriverait rien. Donc je suis désolé.
Ce qui m'effraie, c'est qu'il fréquente sa fille à elle.
Mais c'est inadmissible. C'est très choquant.
Ça, franchement...
Je ne comprends même pas comment c'est possible.
Moi, je vous dis, hein, cette famille, j'ai mis une croix dessus. Moi, je vis seule. J'ai plus de parents, j'ai plus de frères, j'ai plus de sœurs.
Que la fille de Sophie puisse encore physiquement avoir un rapport, ne serait-ce que visuel, avec le violeur, c'est effrayant.
Ah oui.
Moi,
ça,
ça me
donne la chair de poule.
Moi, c'est ce qui me fait peur. C'est vrai que je me dis, je disparais demain.
Ah oui, je vous ai entendu.
Ma famille ne fera pas barrage.
Ça sera les trois petits cochons.
Exactement,
Sarah, s'il vous plaît, je peux en caser une. S'il vous plaît, Maxime, je veux bien que vous vous occupiez du dossier, entre guillemets, de Sophie, parce que
écoutez,
je ne veux
Yann,
pas la laisser. Mais je voudrais dire un truc à Sophie. Sophie, si vous disparaissez avec la perspective que le violeur tape à la porte de votre fille quand elle aura 20 ou 25 ans, il est capable de tout. Je vous demande d'évacuer ça de votre cerveau et la seule manière de le faire, c'est que ce type prenne une fessée juridique. Il y a des tribunaux...
Oui, parce qu'avec une condamnation, il n'osera pas le faire.
Il y a des tribunaux, ils sont là pour remplir leur rôle.
Et même si, comme j'ai dit, parce que ma mère, un jour, ma mère de colère, parce que souvent, je suis en colère, j'en parle, ma mère m'a dit, mais de toute façon, tu n'as pas de preuves. C'est vrai, je n'ai pas de preuves. Sauf le courrier de ma sœur, qui quand même est très explicite. Le courrier fait 3 pages, il est daté.
Mais inquiétez pas, il n'y a pas... D'accord, les preuves, bien
sûr. Mais il n'y avait pas de... Excusez-moi, mais les questions de preuves, ma fille a dit ce qui s'était passé. D'accord, mais il a fallu que ma fille, elle le dise au commissariat et tout. Et ensuite, ils ont pris ce garçon et lui ont posé les questions. Mais au niveau de ma fille, la seule preuve qu'ils avaient, c'était bon, cette petite truc au niveau de l'hymen. Mais ça aurait pu se passer, je ne sais pas, accidentellement ou quoi que ce soit. Mais dans la mesure, ils l'ont cru, ma fille, de ce qu'elle a dit. Oui. Et il n'y avait pas de preuve. Donc les questions de preuve... Ne vous attardez pas dessus.
Mais non, mais je vous ai bien... Attendez, Maxime. Maxime, s'il vous plaît. Pardon. Si vous voulez, l'idée que... Et je vois bien que Sophie a du mal, elle est portée plainte. Donc, à chaque fois qu'on apporte à Sophie une explication, un élément lui prouvant qu'il faut absolument porter plainte, Sophie, et c'est tout à fait humain, je la comprends, trouve toujours une bonne raison de ne pas y aller.
Moi aussi, je comprends.
Allez-y, Maxime, je vous ai interrompu, pardon.
Non, je vous en prie. Très franchement, Sophie, vous n'avez pas besoin de preuves, parce que les faits commencent à dater, donc évidemment, des preuves matérielles, il n'y en a pas. Mais il y a, dans les commissariats et surtout dans ce qui s'appelle les UMJ, les unités médico-judiciaires, des psychologues ou des psychiatres qui sont capables déjà de faire un grand tri entre les affabulateurs et affabulatrices et les vraies victimes. Donc ça, c'est un élément important. Vous avez ensuite le courrier de votre sœur. Ensuite, avec ces gens, je parle de votre famille, j'ai du mal à considérer ça comme de la famille, vu comme ils agissent avec vous. Vous pouvez recueillir des preuves maintenant, par exemple des échanges de SMS, en expliquant que vous avez toujours à l'esprit certains souvenirs, et vous aurez les réponses par SMS. Ils ne se méfieront pas jusque-là, vous n'avez pas porté plainte. Donc il peut aussi y avoir une constitution de preuves par ruse, si vous voulez. Et puis, le témoignage de la dame, là, je suis nul pour les prénoms.
Sarah, c'est pas grave. Enchantée,
Sarah. Enchantée. Le témoignage de Sarah démontre qu'effectivement, il est important d'avoir ce jugement. Je vais prendre un mauvais exemple, mais vous faites des études. Vous avez un diplôme. Le diplôme, en fait, ça sanctionne, ça démontre qu'effectivement, vous avez acquis quelque chose, et c'est un symbole. Et bien là, c'est pareil. Tant que vous n'aurez pas ce symbole qui déclare l'autre comme coupable et vous comme victime, comment vous voulez faire le deuil, si tant est que ce soit possible à 100%, du calvaire que vous avez vécu, mais que vous continuez surtout à vivre.
Oui.
Vous voyez, il faut que ça s'arrête pour vous, cette souffrance.
J'ai dû faire de l'hypnose pour apaiser les troubles post-traumatiques, parce que il y a eu un moment où, par exemple, moi, je travaillais auprès. En plus, à l'époque, je faisais un métier qui pouvait être assez assez sensible, parce que je travaillais auprès d'un public homme SDF dans un équipement de nuit. Et il y a un soir où donc les rapports de force, les passages à l'acte, tout ça, ça pouvait arriver. Mais dans le milieu professionnel, on est toujours à plusieurs, on est protégé. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas surpris à un moment donné si vous avez une menace ou une insulte ou quoi que ce soit, parce que vous êtes préparé. Ce n'est pas comme dans le milieu familial où vous vous sentez en sécurité. Vous croyez que c'est votre bulle de sécurité,
vous connaissez ma théorie là-dessus. Hein. Je pense qu'il n'y a pas plus dangereux sur Terre que le milieu familial. Je crois qu'il n'y a rien de pire. Pas tous
j'étais
en même temps.
En
on va faire une. J'ai promis tout à l'heure, je n'ai qu'une parole à Maïlis.
Excusez-moi, Johan.
C'est Yann, c'est pas Johan.
Excusez-moi.
Non, mais je vous en prie. Mais il ne faut pas que ça devienne cacophonique. Et comme je tiens toujours ma parole, notamment avec les jeunes, parce qu'après, on perd toute crédibilité, j'avais promis à Maïlis, qui nous a rejoint pour les 2 heures, de lire un poème de Francis Ponge sur une musique de Francis Lay. Et on va faire une petite pause poétique.
Alors, Francis Ponge...
Non, dis pas alors, comme ça, on n'est pas en récitation. Approche-toi du micro.
Oui, voilà. Pardon.
Et tu dis pas alors, Francis... Pardon. Non.
Chaque morceau de viande est une sorte d'usine. Moulins et pressoirs à sang. Tubulures, hauts fourneaux. Cuves y voisinent avec les marteaux pilons. les coussins de graisse. La vapeur y jaillit, bouillante. Des feux sombres ou clairs rougeoient. Des ruisseaux à ciel ouvert charrient des scories avec le fiel. Et tout cela refroidit lentement à la nuit, à la mort. Aussitôt, sinon la rouille, du moins d'autres réactions chimiques se produisent, qui dégagent des odeurs pestilentielles.
Et là, tu peux dire le titre du poème et dire Francis Ponge.
Donc c'était un poème de Francis Ponge qui s'appelait « Le morceau de viande ».
Eh bien, il était extrêmement bien lu.
Merci.
Et j'aimerais bien lire moi aussi bien les poèmes, parce que à chaque fois que j'en lis un, je bafouille. Bravo.
Merci
beaucoup. On était très contents de ta visite chez nous et j'espère qu'un jour, on te retrouvera sur Europe 1 parmi les journalistes.
Bah, j'espère aussi. Merci de la chance que vous m'avez donnée de venir ce soir.
Tu as une très jolie voix et si on peut t'aider, on fera tout notre possible.
Merci beaucoup.
Peut-être un jour faire un stage. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir, Maïlys.
Merci, merci de m'avoir reçu, merci beaucoup.
Je retourne à mes auditeurs.
Oui.
Vous êtes toujours là, les amis?
Sarah, oui,
Sophie, Maxime.
Oui, absolument.
Oui. Et c'est vrai que ça, il a fait...
Elle m'embarque mon livre. Eh, oh, mon ponge. Putain, les jeunes, ils te chourent. Hein. La vache, mon ponge. Ah non, mais sans déconner. Moi, je veux bien offrir des livres, je veux bien offrir. Mais on ne me pique pas mes bouquins. Pardon.
Non, pas de souci. Et c'est vrai qu'il y a eu des conséquences, hein, parce que moi, il y a un moment où j'ai fait l'objet par un SDF d'une tentative d'agression que je l'ai géré, mais en reculant, parce que je lui ai dit maintenant vous reculez et vous sortez du bureau. En reculant, il a, au lieu d'appuyer sur la poignée de la porte, il a appuyé sur l'interrupteur et la lumière s'est éteinte. Et ça a été horrible pour moi.
Mon Dieu.
Il y a eu un moment, j'ai été complètement tétanisée. Il a rallumé parce que c'était pas, en fait, il était c'était pas son intention, donc il a rallumé et j'ai dit sortez. Et mon collègue est arrivé et il m'a vu, il me dit mais parce qu'il s'attendait à ce que je vire la personne, à ce que je mette une sanction.
Oui.
Et moi j'étais tétanisée.
Ah ouais.
Et là j'ai compris que ça n'allait pas.
Ouais.
Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je règle parce que après c'est mis des crises de larmes comme ça, pour rien. Et l'hypnose, heureusement, j'ai bien été prise en charge et l'hypnose a géré ça. Ça s'est apaisé. Mais on est traumatisé. On ne se rend pas compte. On se dit, oh, on est fort, on va dépasser, on est plus fort que ça. Moi, on me l'a dit. Hein. On m'a dit, avec le tempérament que tu as, je suis étonnée que tu te sois laissé faire.
Il n'y a pas de gens forts.
On est sidéré quand il se passe des choses comme ça.
Sauf que le viol continue tous les jours par le comportement de la famille.
Complètement.
C'est le viol. Yann, en fait, votre viol a lieu tous les jours, Sophie.
Ouais. Yann, vous savez.
C'est vrai que.
Allez-y, Sophie, ensuite, Sarah.
D'accord.
Et en fait, la première fois où j'ai compris, et c'est ce qui a entraîné le fait que j'en parle à donc, la mère de ce garçon. C'est que j'ai appelé la première fois la Libre Antenne avec Olivier Delacroix en 2020 ou en 2019 décembre. Et j'ai expliqué. Et c'est la première fois où on m'a dit vraiment que c'était que j'étais une victime, vraiment fortement, et que c'était un viol.
Ah oui, j'imagine qu'Olivier l'a pas laissé passer ça non plus. Hein.
Et en expliquant aussi ce qu'était le milieu rural, le milieu familial aussi. Enfin, dans les campagnes.
Non, c'est pas une histoire de milieu rural, c'est la même chose dans les grandes villes.
Il y avait tout ça. Et ce qui m'a permis après, et alors c'est fou parce que dans les semaines qu'on suivit, j'ai fait une pelade. J'ai perdu une partie de cheveux. Pas bon, ça s'étendait. Et moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est arrivé dans la foulée. Je pense parce que je l'avais dit.
Exactement. C'est ce que je dis souvent aux auditeurs.
Ouais.
C'est ce que je dis souvent aux auditeurs, Sophie, c'est que quand vous vous confiez la Libre Antenne ou à un psychanalyste qui n'a rien à voir, hein, je ne confonds pas les deux, bien sûr, c'est pas que vous le dites à quelqu'un, c'est que vous vous entendez vous-même dire. Et ça,
oui,
ça change
ça.
Tout. Parce que la phrase qui suit dire « je me suis fait violer », c'est une phrase très difficile à dire. C'est peut-être même pour les femmes violées la phrase la plus difficile qui puisse être dite par elles.
Oui, complètement.
Oui, parce que c'est reconnaître l'agression qui n'est pas une agression, qui est un viol. Parce que moi, souvent, je dis j'ai été agressée.
Et on c'est dit, pas une agression, c'est un crime.
Oui,
j'ai été assassinée par un violeur. qui essaye de me prendre ma vie tous les jours et je vais la reprendre. Je vais la reprendre en main et de la première étape pour la reprendre en main, ça va être la plainte que Maxime va vous demander de porter le plus rapidement possible.
Si vous en êtes d'accord, Sophie, on peut vous donner mon numéro de téléphone. Je ne demande pas le vôtre. Et vous m'appelez à votre guise. On discute. C'est comme à la libre antenne, sauf qu'on sera deux. Seulement. Voilà.
Oui, très bien.
Je peux faire, bien sûr,
chère Sarah.
Vous pouvez même lui donner également mon numéro.
C'est tellement gentil.
Et moi, ma fille, elle a fait du somnambulisme par la suite. Et elle avait même peur de descendre à la cave, dès qu'il faisait un peu noir, elle voulait plus sortir, elle voulait plus. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai dit, écoute, je vais t'inscrire pour faire du jiu-jitsu. Est-ce que ça te plairait? Comme elle avait déjà fait un peu de judo avant, elle me dit, bah oui, d'accord. Elle en a fait 4 ans. Et là, j'étais vraiment tranquille quand elle sortait.
Vous savez que vous dites quelque chose de très, très intelligent. J'ai une amie qui s'est fait violer par des ouvriers. Ses parents n'étaient pas là, les ouvriers venaient toute la semaine. Ce jour-là, elle était adolescente, les parents étant partis au cinéma. Les ouvriers l'ont violée à plusieurs. Elle était adolescente. Elle n'a jamais fait de psychanalyse ni quoi que ce soit. C'est vrai, et donc elle a toujours des stigmates de ce viol. Mais elle a fait du karaté à très haut niveau, elle est ceinture noire, je ne sais pas combien de dan. Enfin, elle a fait du. Et c'est vrai que ça lui a donné, en plus d'une sorte d'assurance face aux violeurs potentiels qui reviendraient essayer de tenter de la violer, en fait, de la violenter, ça lui a aussi apporté une sérénité intérieure parce que les arts martiaux ont ça aussi de fort qu'ils déclenchent une forme de bien-être en plus du système de défense et de sécurité.
Moi, j'avais un passé, j'avais fait du taekwondo pendant des années. Et tout le monde pensait que ce genre de choses ne m'arriverait jamais. Et en fait, j'ai été tellement surprise que j'ai été comme sidérée.
Oui, on ne pense pas utiliser le sport de combat.
Et il me tenait, et moi, je n'arrêtais pas de dire « je suis ta tante, tu n'as pas le droit de me faire ça ». Et j'ai réussi à me dégager, mais il y a eu, quand on parle de sidération, quand les gens ils disent « mais tu t'es pas débattu, tu n'as pas crié, tu n'as pas mordu », vous êtes vraiment, votre corps se déconnecte.
Mais
de
le taekwondo
cerveau.
Ne peut rien y changer. Mon prof de judo à Orléans, une des premières phrases qu'il m'a dites était « Je ne sais pas me battre dehors ». Ça voulait dire, en fait, pour les petits qui arrivaient, ça voulait dire, c'était très intelligent sa formulation, ça voulait dire « Vous êtes ici pour faire un sport, mais n'essayez pas de vous en servir à l'extérieur parce que vous serez les perdants et c'est quand même vous qui serez au tapis. Ici, vous pouvez être les meilleurs et mettre qui vous voulez au tapis. On va vous apprendre à le faire, mais en dehors, ce sport arrête d'être valable. » C'était très intelligemment dit. Il n'empêche que ça donne une force d'âme.
Oui,
on va écouter un peu de musique et je vous reprends tout de suite. Sophie, Sarah et Maxime, il nous reste peu de temps, mais j'aimerais que Sarah, Maxime se joignent à moi pour vous êtes juré de porter plainte pour cesser de revivre ce drame en boucle. Je garde contact avec vous. J'aimerais que vous me rappeliez quand la plainte aura été posée. Il n'y a pas d'injonction de le faire demain matin, faites-le.
Il l'a fait une fois, il va recommencer. Protégez quelqu'un d'autre.
Je ne pourrais pas dire mieux.
S'il vous plaît.
Il va recommencer. Je crois que Sarah a dit la phrase la plus importante de la soirée.
Ah oui, ouais.
Parce que pour l'instant, il n'a pas compris qu'il avait commis un crime. Il pense qu'il a fait une connerie à 20 ans.
Non. Quand on a une idée comme ça, à un moment ou à un autre, elle ressort. Protégez quelqu'un d'autre. Je vous en supplie.
À la Libre Antenne, nous sommes tous, et je parle au nom de mon équipe, pour que les violeurs payent cher leurs crimes.
Absolument
d'accord
avec vous.
Pour l'instant, il pense avoir commis un péché de jeunesse. Non, cet homme est un criminel. Il n'avait pas 12 ans quand il a commis ce crime. Il avait 21 ans. Vous allez recouvrer votre dignité, porter plainte. Je souhaite à tous nos auditeurs une excellente nuit sur Europe 1. Il est très exactement 1h du matin.